moi afin que je puisse vraiment refléter ta parole. C'est un sujet tellement vaste, mais nous voulons grandir, Seigneur. Alors, accueille nos quelques pains, nos quelques poissons. Viens, Seigneur, les multiplier dans nos vies afin que nous grandissions comme adorateurs. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Ceux qui sont avec moi, je vous demande de vous asseoir devant les trois colonnes, s'il vous plaît. Merci. Et il y a des nouvelles notes pour cette semaine, simplement vous prendre les feuilles brochées. Quelqu'un qui voudrait nous rappeler quels sont les thèmes principaux qu'on a mentionnés au cours des dernières semaines qui sont à retenir à travers toutes les Écritures. On va voir comment ils évoluent lorsqu'on va passer dans le Nouveau Testament. Mais on a parlé de quatre thèmes principaux pour essayer de résumer un peu l'adoration. Pardon? Le rachat ou la rédemption. Le rachat ou la rédemption. Trois autres. La vocation du peuple racheté. Ce peuple a été racheté pour une vocation. Hein, sa vocation, c'est son appel, le sens de sa vie, la direction de sa vie. Non, pas la sanctification. L'alliance. L'alliance. Alors, c'est un peuple qui a été racheté pour entrer dans une alliance. Et en ceci, le peuple d'Israël se distingue des peuples environnants dans le sens qu'il traite une alliance avec son Dieu. Qui dit alliance dit deux parties qui s'engagent avec des responsabilités des deux côtés. D'accord? Rachat, alliance, vocation. Le premier. Révélation. Merci. Alors, il n'est pas possible de connaître et d'adorer Dieu s'il ne prend pas l'initiative pour se faire connaître à nous. D'accord? Si je fais juste prendre ces quatre thèmes-là, il y a déjà plusieurs choses qu'on peut apprendre sur l'adoration dans notre manière de venir à Dieu, dans notre manière de concevoir, même de comprendre qui est Dieu. Ce n'est pas le Dieu que je vais imaginer. Ce n'est pas le Dieu que je vais chercher avec mes intuitions. C'est le Dieu que je vais écouter dans sa révélation, dans ce qu'il me fait connaître de lui. Ça, c'est déjà une chose. C'est le Dieu envers qui je vais toujours être en dette. C'est un anglicisme là, que je prends là. Mais il m'a racheté, d'accord? Alors, c'est une relation où j'ai été racheté. Je vais toujours lui devoir à ce Dieu-là. Non seulement il est mon créateur, mais il m'a racheté de mon esclavage, de ma perdition, de ma condamnation. Ça va être développé encore plus clairement dans le Nouveau Testament au niveau de notre responsabilité personnelle de péché. C'est une alliance. Alors, ce qui va honorer premièrement ce Dieu-là comme adorateur, pour ma part, ça va être de respecter ma part de l'alliance. Lui s'engage envers moi et moi, je m'engage envers lui. Je veux savoir si je suis un adorateur qui plaît à Dieu. Une question toute simple, est-ce que j'honore l'alliance? De la même manière, dans un mariage, que si je voulais savoir si mon épouse est heureuse dans notre couple, elle était très heureuse avec les vœux que je lui ai faits le jour des noces. J'ai juste à honorer ça, puis elle va être très heureuse dans notre relation de couple. D'accord? J'honore l'alliance que j'ai faite avec elle. Ça va? Et puis, évidemment, la vocation, un nouvel appel. Est-ce que, à tous les jours, est-ce que le sens de ma vie va dans le sens de cette nouvelle vocation? Ça veut dire qu'il y a eu un changement radical. J'ai été racheté pour entrer dans une nouvelle vie qui a un nouveau sens. Est-ce que je suis l'appel qu'il y a sur ma vie? Et déjà, on disait la semaine dernière que lorsqu'on commence à concevoir l'adoration comme ça, à la voir comme ça, c'est déjà assez éloigné d'une vision romantique, très contemporaine de l'adoration, où c'est j'entre dans la présence de Dieu, puis je vis des choses avec Dieu à ce moment-là, puis je ne veux pas mépriser ces choses-là, d'accord? Tout ce que je dis, c'est qu'on va, essayer, en survolant les Écritures, de leur donner leur juste place. Dans la vision contemporaine de l'adoration, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça qui revient dans le langage. C'est ce que tu vas aller vivre avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'intimité avec Dieu encore, à la lumière des Écritures. D'accord? Alors, ce qu'on a vu à présent, c'est comment le peuple de Dieu entre en relation avec Dieu. Ce qu'on va voir cette semaine, c'est quel est le sens de la relation que Dieu a avec son peuple. Et ce qu'on fait cette semaine, c'est qu'on va s'attarder au langage qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler d'adoration. Et qu'est-ce que ça comporte comme idée? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour parler du sens de cette relation? À date, on a vu comment le peuple de Dieu entre en relation avec Dieu. Quel est le sens de cette relation qu'il a avec son Dieu? Monsieur Femmelin, j'ai une feuille ici à l'avant pour vous. Monsieur Femmelin, j'ai une feuille pour vous ici. Juste un petit, juste une petite précision. Qui a déjà entendu parler de la Septante? Quelqu'un peut me dire c'est quoi la Septante? C'est pas une question piège, là, c'est juste pour vous éclairer. Alors, en deux mots, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament qui était rendue disponible à la diaspora juive un peu partout, qui avait perdu, nombre d'entre eux avaient perdu leur hébreu. Et donc, on a traduit l'Ancien Testament en grec. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, régulièrement, on doit prendre le temps d'examiner si les auteurs du Nouveau Testament sont en train de citer la Septante ou la version hébraïque de l'Ancien Testament. D'accord? Ils étaient contemporains, vivaient à leur époque, et souvent ils vont citer la Septante lorsqu'ils citent l'Ancien Testament. Alors des fois, vous êtes dans votre Bible dans votre Bible française, puis là vous regardez un texte du Nouveau Testament, puis il y a une citation, puis c'est censé être en train de citer ça ici, mais celle-là est traduite, celle que vous avez, vous, est traduite à partir des textes hébraïques, puis eux sont en train de citer la Septante. Puis là vous dites, oups, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Là. Elle est excellente, c'est une bonne traduction. C'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Mais la réalité quand même, c'est que lorsque tu traduis d'une langue à une autre, c'est pas le même mot, il y a des nuances dans les mots. Et donc, ce qu'on va faire ce matin, la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament utilisée par les Juifs. D'accord? Alors, c'est pas quelque chose qui a été fait par l'Église après que Jésus soit venu, tout ça. C'est quelque chose qui datait de bien avant. Et les auteurs du Nouveau Testament citent souvent la Septante lorsqu'ils sont en train de citer l'Ancien Testament. Ça nous permet de faire quelque chose, ça nous permet de regarder des mots grecs, comment un mot hébreu dans l'Ancien Testament a été traduit en grec dans la Septante, parce que l'intérêt pour nous, c'est que lorsqu'on arrive après dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament vont se servir des mêmes mots grecs pour parler de l'adoration dans le Nouveau Testament. Puis là, des fois, ça nous permet de voir l'évolution. OK, dans l'Ancien Testament, on utilisait, par exemple, un mot qui vient du terme « esclave », d'accord? Doulos, on utilisait le verbe qui est attaché à ce mot-là dans l'Ancien Testament pour parler d'adoration. On va voir ça ce matin. Mais là, quand on s'en va dans le Nouveau Testament, toute la notion d'esclave, de serviteur de Dieu, c'est très, très présent. D'accord? Oui, doulos, c'est esclave ou serviteur, mais pas serviteur comme on l'entend. C'est serviteur généralement non rémunéré, d'accord? Un serviteur acheté. C'est juste une précision parce que je vais mentionner quelques mots grecs, puis là vous allez dire, on est dans l'Ancien Testament, pourquoi ils citent du grec? Mais c'est ça, c'est parce que les auteurs du Nouveau Testament travaillaient beaucoup avec la Septante, d'accord? À la page 2, en fait la première feuille de vos notes, au bas de la page, le mot adoration est utilisé en français pour traduire différents mots hébreux et grecs. Septante, de la Bible. Ces mots désignent souvent un geste corporel précis et expriment une attitude de soumission reconnaissante et de louange à l'égard de Dieu. Prochaine page, ils servent de manière générale à désigner des actes comme l'offrande ou le service au temple ou encore la participation à certaines fêtes religieuses. Mais d'autres mots, hébreux et grecs, sont utilisés pour parler de l'adoration du peuple de Dieu. Alors, il y a tout ce qui est rattaché au service dans le temple, tout ça, mais il y a d'autres termes qu'on trouve ailleurs qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est l'adoration. On va aller voir quelques-uns de ces termes-là ce matin. On les a regroupés sous trois thèmes, si je peux dire. L'adoration pour parler d'hommage et de soumission reconnaissante. L'adoration, servir Dieu. Et l'adoration comme révérence ou comme respect, là, penser à l'idée de crainte de Dieu. D'accord? Alors, premièrement, rendre hommage, une attitude de soumission. Deuxièmement, servir. Troisièmement, une crainte révérentielle de Dieu. Puis, on va passer à travers ces termes, les mots qui représentent ces thèmes-là dans l'Ancien Testament pour essayer de comprendre quel est le sens de la relation que le peuple de Dieu avait avec son Dieu dans l'Ancien Testament. D'accord? Un des mots grecs qui est utilisé, un des plus fréquents dans l'Ancien Testament pour parler d'adoration, c'est le mot grec proskunein. Le mot grec proskunein parle de se prosterner. D'accord? Si vous regardez le deuxième paragraphe sous « Hommage et soumission reconnaissante », ce verbe composé désigne toujours la façon orientale d'exprimer son respect à l'égard d'un personnage éminent par un geste, se prosterner jusqu'à terre et embrasser ses pieds ou le bord de son vêtement, oups, une petite faute, ou encore le sol. Très tôt, le mot proskunein fut employé pour désigner l'attitude intérieure d'hommage et de respect qu'exprimait le geste extérieur. Alors, proskunein, qui est souvent utilisé pour rendre l'idée des mots pour adoration dans l'Ancien Testament, au sens propre, ce que ça veut dire, c'est se pencher par terre devant une personne. On pouvait le faire devant un roi, devant quelqu'un qu'on voulait honorer. Vous sentez cette révérence-là très présente dans les relations. Lorsque des individus pouvaient se rencontrer dans l'Ancien Testament, on le voit à plusieurs reprises. Mais c'est littéralement t'agenouiller par terre, aller même jusqu'à embrasser le bord de son vêtement. D'accord? Au départ, dans son sens propre, proskunein veut dire de poser le geste physiquement. Éventuellement, on en est venu à l'utiliser pour exprimer aussi une attitude intérieure, où je me prosterne intérieurement, d'accord? Mais ça exprime définitivement de la soumission, ça exprime définitivement du respect. C'est très différent de « je m'en viens adorer Dieu ». Et puis, faites-vous-en pas dans l'Ancien Testament, on lève les mains aussi, mais c'est une autre chose, d'accord? Donc, c'est pas que j'ai un problème parce qu'on lève les mains, on est en train de regarder qu'il y avait beaucoup de « je me mets à terre » aussi. Et ça parle beaucoup, là. C'est une chose de m'approcher vers le Dieu comme ça. C'est une autre chose de m'approcher vers lui en m'agenouillant par terre puis en baissant la tête devant lui. Alors, on va regarder des exemples dans l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre quelle sorte d'attitude il peut y avoir, quels sont les sentiments qui peuvent être associés avec ce geste-là. Dans l'Ancien Testament, le fait de se prosterner devant le Seigneur exprimait avant tout une crainte respectueuse et une attitude de soumission à son égard. Dans certains cas, c'est juste de la reconnaissance. Mais spontanément, pour nous, là, en 2010, est-ce qu'on serait tenté d'exprimer notre reconnaissance à Dieu en s'agenouillant devant lui, tête contre terre? Est-ce que vous vous sentez accueilli par Dieu si une belle expression de votre reconnaissance envers Dieu, ça serait de vous agenouiller face contre terre devant lui? Ou si ça veut dire, est-ce que j'exprime de la joie, de la reconnaissance? Oui. Alors, tomber à genoux, oui. Tomber à genoux, hein. On a un background catholique. Tomber à genoux, oui. Face contre terre, pour dire merci Seigneur. Ça pourrait arriver, mais vous avouerez que ce n'est pas vraiment dans notre culture. Et mon impression à moi, oui, d'autres religions le font encore aujourd'hui. Mais dans mon impression à moi, c'est qu'on aurait comme l'impression, ça n'a pas vraiment rapport à s'humilier puis être reconnaissant. C'est peut-être pas deux choses qui vont toujours ensemble. Je sais pas. C'est une perception que j'ai de notre compréhension de l'adoration. Alors, on regarde des exemples. Au bas de la page 3, la deuxième feuille, là, nous trouvons un bel exemple avec le serviteur d'Abraham. Et là, vous, ceux qui sont familiers avec l'Ancien Testament, les exemples qu'on va donner vont vous revenir à l'esprit. Ainsi, le serviteur d'Abraham qui est envoyé afin de chercher une épouse pour Isaac et qui voit sa prière exaucée de façon merveilleuse, le texte nous dit qu'il s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel en disant « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. » Alors, vous voyez, c'est de la joie, là. mais qui est exprimé par une attitude d'humiliation devant Dieu. C'est pas de la peur de Dieu, c'est pas de la honte, c'est de la joie. C'est un cœur qui déborde de joie, mais c'est pas comme si j'ai la joie de voir Bruno puis j'y saute d'un bras. Pas tout à fait la même chose, là. Oui? La joie s'exprime pas de la même manière. Je vois mon pote, je saute dessus parce que je suis content de le voir. Et déjà, je pense à des personnes plus âgées qui écoutaient les jeunes parler de Dieu, puis il y avait l'impression qu'il y avait une emphase peut-être trop grand sur Dieu, mon chum. Tu sais? Oui, Suzy. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a de la joie et de la crainte qui nous amènent à nous humilier? Mais je pense que c'est ça. C'est de la joie devant Dieu. D'accord? Et c'est ça qui transpire. De la joie devant Camille, bien, peut-être que je ne vais pas me mettre à quatre pattes. De la joie devant Dieu. Alors, vous pouvez déjà penser à des passages hein, où un envoyé de Dieu dit « Non, 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 lève-toi. Je suis juste un serviteur, moi aussi. » Il refuse cette expression-là de soumission. Alors, c'est de la joie, mais de la joie devant qui? Devant Dieu. Et je vous dirais qu'il y a déjà des belles inspirations pour nous lorsqu'on vient adorer, même chanter des louanges ensemble le dimanche. Oui, Bruno?
Dans le fond, ça peut aussi être culturel. Parce que pour lui, quand il s'est mis à genoux, il s'est mis à se prosterner, dans le fond, c'était normal pour lui. Je veux dire, moi, cette semaine, il est arrivé quelque chose dans le genre, tu sais, tu doutes de toi, ou tu doutes même de peut-être Dieu, il entend-tu, ou fais-tu quoi dans ma vie? Puis, suite après, si tu veux, ta petite crise de je ne sais plus qu'est-ce qui se passe, je reçois, en tout cas, tu sais, j'ai une réponse assez claire que Dieu était là, au contrôle. Moi, ça m'a cassé. Je t'avoue que j'étais vraiment humilié dans le sens que j'avais crainte de Dieu, puis j'ai dit, OK, Seigneur, tu sais, j'avais de la joie, mais j'étais une crainte, une sainte crainte, tu sais. Mais je ne peux pas dire que j'aurais eu porté à m'agenouiller devant Dieu, parce que peut-être que culturellement, moi, je ne suis pas habitué à ça.
Oui, la question de Bruno, c'est est-ce qu'il y a un élément culturel? Puis il nous partage justement qu'il a vécu cette semaine une situation où il était dépourvu, Dieu est intervenu, puis intérieurement, il a été humilié devant Dieu. Et oui, c'est culturel. Puis dans le fond, ce qu'on est en train de chercher en regardant l'Ancien Testament, encore une fois, je vous l'ai dit, on n'est pas en train de chercher à refaire tout ce qui se fait dans l'Ancien Testament. On veut aller plonger nos racines lorsqu'on va regarder le Nouveau Testament, puis quand on vient louer le Seigneur, puis toute la semaine, on veut trouver où devraient aller puiser nos racines. Ils vont aller puiser là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait se résumer dans notre culture à nous, simplement une attitude intérieure? Et pourquoi pas? J'ai vraiment aucun problème avec ça. On va aller voir c'était quoi un adorateur dans son langage dans l'Ancien Testament. Oui, Robert. Oui. Oui, c'est ça. Des fois, les interventions de Dieu sont tellement magnifiques que ça amène à une espèce de prosternement intérieur, si je pourrais dire, où on est vraiment, comme Bruno disait, essayé. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est une bonne réponse à Dieu. Oui, Paul. Oui, alors c'est sûr que si Dieu se manifeste devant nous, une révélation, même une apparition quelconque, mettons de Christ, certainement qu'on tomberait par terre. Là, ce qui est intéressant dans le passage ici, c'est que c'est juste un exaucement à sa prière. C'est un exaucement extraordinaire, on s'entend, mais c'est juste un exaucement à sa prière. Il n'y a pas de vision, là. C'est pas une théophanie où Dieu apparaît. C'est pas ça, là. J'ai prié, je suis exaucé de manière extraordinaire, puis le geste physique qui est là exprime quelque chose. D'accord? Et je pense qu'un chrétien va régulièrement le vivre spontanément. D'accord? Je ne suis pas en train de faire constamment une critique de ce qu'on fait comme chrétien en disant « on ne fait pas comme dans ce temps-là ». Je crois que par l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on fait très, très bien. Là. Et ce que Bruno partageait, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, ça ne veut pas dire que je vais me prosterner par terre. Mais on essaie d'enrichir notre compréhension de ce que c'est un adorateur. D'accord? Alors ça, c'est un exemple avec le serviteur d'Abraham. Même chose avec Moïse, conscient que Dieu allait exercer sa miséricorde à l'égard des Israélites et leur pardonner l'épisode du veau d'or, s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avant même d'ouvrir la bouche pour prier, il exprima sa reconnaissance face à la révélation divine qu'il venait de recevoir. Dans notre cas, ça pourrait être des fois juste par un silence. Tu es pris par l'émotion de voir la grâce de Dieu, puis tu n'as rien à dire. C'est ça. Tu es émerveillé par Dieu. Et ça serait l'esprit qui nous porte à l'exprimer à Dieu par un silence complet. Maintenant, donc des fois, c'est de la reconnaissance. D'autres fois, ça va être de la soumission à travers la douleur. Job, lorsque Job se jeta par terre pour se prosterner, avant de louer Dieu au sein de son affliction, sa posture traduisait à la fois la douleur et la soumission. Alors, j'imagine Job qui est frappé par l'épreuve et lui se jette par terre. Puis là, l'image qui me venait quand j'étais en train d'étudier, c'est nous, on pourrait voir un enfant qui se jette par terre pour faire une grosse colère. Il se jette par terre. Comprenez? C'est pas ça que Job a fait. Là. Lorsqu'il s'est jeté par terre, c'était Dieu souverain. C'était la parole que j'ai entendue dans la bouche de plusieurs Haïtiens la semaine dernière puis la semaine d'avant qui disait « C'est clair que ce n'est pas la main de Dieu qui a fait cela, donc la main de l'homme qui a fait cela, donc nous n'avons rien à dire. » Comprenez? C'est l'attitude de Job. Qui dit, Dieu a donné, Dieu a enlevé, que l'Éternel soit béni. Il l'a exprimé physiquement. Et donc, il y avait une décision à ce moment-là, ça se passe en une fraction de seconde, mais il y a une décision de dire, je ne serai pas rebelle, je me jette par terre, puis je vais encore crier à toi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas crier à toi pour être sorti de l'épreuve. Mais je ne me tourne pas. Je ne te rejette pas. Je me prosterne devant toi. Alors, expression spontanée de soumission et de reconnaissance, parfois de la douleur, mais toujours une espèce de respect qui est là, et c'est cette idée de se prosterner. Prochain paragraphe, l'adoration au sens plus général. Parfois, l'idée de se prosterner va être associée avec servir. Et si vous pensez au passage dans l'Ancien Testament qui interdit au peuple d'Israël d'aller se prosterner et servir des idoles. D'accord? Ça va encore être associé dans ce cas-là. Ça va être se prosterner et servir. On va regarder ensemble l'exemple du psaume 95. Vous l'avez, la partie que je veux citer, elle est là dans les notes, au bas de la page 4. Psaume 95. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée, venez, prosternons-nous et humilions-nous. » Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est la joie, c'est la fête, on célèbre Dieu. Par conséquent, quelle meilleure manière que de l'exprimer en se prosternant puis en s'humiliant devant Dieu. Ça, c'est de l'adoration. C'est le sens de l'adoration du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. D'accord? Et je pense que on a intégré une partie de cela, mais parfois il y a du chemin à faire encore dans ce sens-là. D'accord? Dans cette conception très, très irrévérencieuse qu'on a avec nos contemporains, dans nos rapports humains, c'est sûr que ça va transparaître dans notre relation avec Dieu. Il s'agissait donc de reconnaître la présence et la grandeur de Dieu et l'exprimer de manière concrète. J'ai trouvé ça intéressant juste d'aller jusqu'à la fin de ce psaume-là. Cette louange, toujours dans le même psaume, conduit à une exhortation. Alors, si vous regardez ce qui suit, « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. » Alors, il y a cette idée encore de crainte, de se rappeler du rachat. Et tout ça va les conduire à se prosterner. On voit des passages dans l'Ancien Testament qui disent qu'un jour les nations vont venir se prosterner. tout genou fléchira dans Ésaïe. D'accord? Alors, on voit des textes qui nous disent justement qu'un jour, les nations elles-mêmes vont venir se prosterner devant Dieu. Personnellement, je trouve que c'est même intéressant de garder ça à l'esprit quand je parle de l'Évangile avec des non-croyants qui n'ont pas de... qui voudraient tout négocier avec Dieu, qui ont une conception de Dieu qui est totalement irrévérentielle, puis simplement de leur dire, tu sais, un jour, tout le monde va fléchir le genou. Un jour, tu vas être humilié devant Dieu pour rentrer dans sa joie avec un cœur rempli de reconnaissance ou pour trembler devant sa face éternellement. Là. En fait, pas devant sa face, tu vas être retiré de devant sa face. Mais cette idée... lorsqu'on annonce l'Évangile, que nous sommes sauvés par grâce et que ce qui pourrait transparaître de mon exposé de l'Évangile, c'est juste un Évangile où, regarde, Dieu t'aime, tu es une créature merveilleuse, puis il sait que tu es mal pris, fait qu'il veut te donner une vie meilleure. C'est pas juste ça, là, le salut. Si son fils a été frappé, c'est parce que tu devrais être frappé. Si son fils a été frappé, a été maudit, c'est parce que la malédiction venait sur toi. Et de ramener cette idée que s'approcher de Dieu, c'est s'agenouiller devant Dieu. Et si tu veux recevoir l'Évangile, mais tu ne veux pas t'agenouiller devant Dieu, tu ne peux pas recevoir l'Évangile, tu ne l'as toujours pas saisi. Ce n'est pas l'Évangile qu'il y a dans les Saintes Écritures. Parce que c'est de Dieu que je m'approche, pas de mon pote. Je vous lis le petit résumé. L'adoration comme expression d'hommage et de soumission, puis on va passer à l'autre terme après. Dans l'Ancien Testament, le fait de se prosterner ou de s'incliner constituait parfois une salutation respectueuse, mais le plus souvent, l'expression d'une soumission à autrui. Alors, comme j'ai dit, on s'en sent même dans l'Ancien Testament pour exprimer des relations entre êtres humains, entre personnes même. Cet hommage exprimait tantôt la gratitude, tantôt la supplication, traduisait une entière dépendance à l'égard d'autrui. Dans un domaine ou un autre, on adoptait spontanément la même posture face à la révélation de la puissance et de la grâce divine, suite à l'exaucement d'une prière ou encore face à la certitude d'un pardon. Dans tous les cas, c'est la même chose, c'est le même comportement. Que ce soit de la crainte, que ce soit merci, que ce soit de la joie, c'est toujours de la joie devant Dieu. Le geste affirmait donc non seulement la présence de Dieu, mais aussi la révélation de sa personne. Il était parfois associé à la louange, mais pouvait aussi suffire à exprimer la confiance et la gratitude. Oui. C'est une bonne question. Le fait que dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu se manifeste de manière extraordinaire, est-ce que cela n'amenait pas le peuple de Dieu à avoir cette attitude de soumission, de respect envers Dieu? Bien honnêtement, lorsqu'on regarde toutes les périodes où il n'y a pas de manifestation extraordinaire, il y a quand même des grandes, grandes périodes. Là. Si vous pensez au serviteur d'Abraham, qu'est-ce que lui a eu comme manifestation de Dieu pour faire ce qu'il a fait? C'était le Dieu de son maître, en plus. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de culturel, c'est vrai, de dire que c'est la régularité des manifestations extraordinaires de Dieu qui amenait ce respect-là. Je ne suis pas convaincu de ça. J'ai l'impression qu'un des éléments, puis on va le voir en allant vers le Nouveau Testament, j'ai l'impression qu'un des éléments, c'est qui nous a amené à voir les choses autrement, puis on va se poser la question en arrivant dans le Nouveau Testament si on doit les voir un peu autrement. Mais Jésus est venu comme une personne, puis il est devenu très intime. C'est le Dieu devant qui tu te prosternais et celui qui a dit aux petits-enfants, « Venez à moi. » Oh, il y a quelque chose qui va changer aussi, là. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est un des éléments. Puis je pense que si la culture de l'Ancien Testament de l'époque venait teinter comment eux adoraient Dieu, la culture de notre époque vient teinter comment nous, on adore Dieu. La question, c'est toujours, est-ce qu'elle teinte dans le bon sens ou non? Et c'est ça qu'on doit demeurer alerte pour examiner. Oui, Camille. Oh, oui, on a, sans nécessairement voir une manifestation. Alors, non, non. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, on a l'impression parfois là, que c'était comme plein de miracles, tout ça. Quand vous placez ça là, sur une ligne linéaire là, du temps, là, vous réalisez que les épisodes de manifestations extraordinaires sont très limités. Très, très, très limités. Un croyant de l'Ancien Testament n'entendait pas la voix de Dieu le matin en se levant pour lui dire s'il devait acheter la maison bleue ou la maison blanche. D'accord? Dieu parlait une fois aux mille. D'accord? Il se manifestait comme ça. Le reste du temps, ce n'était pas comme ça que tu trouvais la direction du Seigneur. Alors, un autre terme qu'on trouve, une autre notion qu'on trouve associée à l'adoration, c'est le service. Et ça, ça va venir nous éclairer. Ça va nous suivre aussi dans le Nouveau Testament. Le verbe « latrioin » est un terme de l'Ancien Testament en grec qui est souvent traduit par « adorer » ou « se prosterner ». D'après son usage biblique et non biblique, je suis au bas de la page 5, il vaut cependant mieux traduire par « servir ». Maintenant, c'est le prochain paragraphe qui m'intéresse, parce que là, vous allez voir une des manières, une des distinctions entre l'adoration chez le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et les peuples environnants. À propos des devoirs d'un esclave, doulos, envers son maître, les auteurs grecs utilisaient le plus souvent le verbe « douléuin », qui mettait l'accent sur la servitude. Ce verbe et les mots apparentés exprimaient l'idée d'une dépendance totale et d'une obéissance contrainte. C'est pourquoi, dans la religion grecque, il n'était pas considéré comme approprié au service des dieux. Il est par conséquent significatif que les traducteurs de la Septante, l'Ancien Testament, n'aient pas hésité à employer « douléuin » pour désigner non seulement le service dû à des maîtres humains, mais aussi celui qui était dû aux dieux d'Israël. On a vu la semaine dernière et la semaine d'avant qu'il y a cette idée que Dieu a racheté Israël alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et en les rachetant, il s'est acquis des droits sur eux. D'accord? Il les rachète, puis il leur dit, « Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à faire alliance avec moi? Si vous faites alliance avec moi, je vous ai racheté, vous honorez ce rachat-là, je vais avoir des droits sur vous. » D'accord? Vous allez être mes vassals. Vous allez être à mon service, littéralement. Et donc, ce qu'on trouve dans des religions environnantes, même lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, quand on va concevoir l'adoration des dieux païens, il n'y a pas de manière aussi présente cette idée de servitude envers ce Dieu-là. Je deviens un serviteur de ce Dieu-là. Comme on va le voir plus loin, il va avoir l'idée que lorsque tu entres dans la présence de ton Dieu païen, tu vas craindre ce Dieu-là à cause de sa puissance. Mais une fois que tu quittes sa présence, tu vas faire tes affaires. Tu vas le respecter. Tu n'es pas à son service. Et c'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament, l'idée qu'Israël devait servir Dieu. On va voir des exemples ensemble. Le service de tout Israël. D'après le livre de l'Exode, Dieu délivra Israël de l'esclavage afin que son peuple puisse le servir sur la montagne. Vous vous rappelez Moïse, c'était ça qui négociait avec Pharaon. Il fallait que le peuple puisse aller servir dans le désert, afin que le peuple puisse servir sur la montagne. En offrant des sacrifices, ils sont en train de faire le service à Dieu. Ça, c'est un des éléments qui va dans ce sens-là. Prochain paragraphe. Ensuite, dans le livre de Deutéronome, ce même terme sera utilisé par Moïse pour exhorter le peuple à se rappeler qu'il a été racheté, délivré de l'esclavage en Égypte. Ceci laisse entendre que Dieu s'est acquis des droits sur Israël en le libérant. Alors, une des questions qu'on va avoir à se poser, quand j'arrive dans le Nouveau Testament, est-ce que Christ s'est acquis des droits sur moi? D'accord? Si vous étiez dans une... si vous faisiez de la méditation, dans une conception de Dieu qui est bouddhiste, est-ce que cette énergie, cet être total-là a des droits sur vous? Si vous étiez dans l'hindouisme avec la multitude de dieux qu'il y a sur la tablette où tous les dieux sont bienvenus, est-ce qu'ils ont des droits sur moi? Ben, je pensais juste au bouddhisme en général où on essaie d'entrer en communion avec le grand tout dans la méditation. Ce que les gens vont chercher à travers ça, ça va être à comme honorer la vie, honorer l'énergie universelle. Est-ce que cette entité-là a des droits sur moi? Non, du tout. Aucunement. Quand je m'en vais me mettre en harmonie avec les choses qui devraient être. Le grand ordre universel, je m'en vais me mettre en harmonie avec le grand ordre universel. Ce n'est pas une personne qui a des droits sur moi. D'accord? Oui, ils vont se connecter. Si vous allez voir Avatar, c'est pas mal ça l'idée qui est là. C'est pas mal ça l'idée. Puis tu te connectes assez littéralement. Donc ça va être une distinction majeure, cette idée de rachat. Si vous allez dans le paragraphe suivant, on cite Deutéronome 10, 12 et 13, « Servir l'Éternel de tout son cœur et de tout son être suppose une vie totalement consacrée à Dieu. » C'est une vie de service. Je vous lis l'exemple dans Josué 22, 5. « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » D'accord? Il y a un rachat, il y a un droit de possession, il y a une servitude. Et une fois, j'ai une dame qui est venue me voir et elle me dit, « Yannick, on n'est pas des esclaves de Dieu. Il nous a libérés. Il nous a libérés d'un esclavage pour nous emmener sous la main d'un bon maître. Généreux, doux, agréable, extraordinaire. Je suis son esclave. Je vais toujours être l'esclave de quelque chose. De mes passions, ça veut dire du diable ou de Dieu. D'accord? En résumé, l'adoration est un service. Le vocabulaire du service fait de Dieu un grand roi qui exige fidélité et obéissance de ceux qui lui appartiennent. Alors, si je veux faire un parallèle avec le Nouveau Testament, juste pour montrer des pistes qui peuvent nous aider à comprendre, puis à enrichir notre adoration. Lorsqu'on arrive dans Romains 6, Paul adresse un problème qu'il y avait dans l'Église, parce que dans l'Église, on découvrait la grâce. N'est-ce pas? Nous sommes sauvés par grâce. Et là, il y avait un laisser-aller dans le péché. Alors, Paul dit, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Est-ce qu'on a été rachetés gracieusement par Dieu afin qu'il manifeste sa grâce de plus en plus en pardonnant de plus en plus notre débauche croissante, admettons? On est de plus en plus dans le péché, Dieu est de plus en plus glorifié parce qu'il y a de plus en plus de grâce. Voyez-vous? Non, on a été gracieusement rachetés pour le servir. Et là, il va développer carrément le thème d'offrir nos membres à la justice comme esclaves de la justice plutôt qu'esclaves du péché qui conduit à la mort. Vous voyez, ça, c'est des moments où tu t'en vas dans le Nouveau Testament, le thème se poursuit. Le même thème se développe dans le Nouveau Testament. Le service du culte constitue une expression particulière de la consécration totale des Israélites au Seigneur qui les avait fait sortir d'Égypte pour qu'ils le servent de façon exclusive. Ainsi, les mots liés à l'idée de service impliquaient la consécration à Dieu de la vie entière, par comparaison avec l'utilisation moderne du mot adoration qui signifie généralement des actes de respect et de consécration. Dans l'Ancien Testament, le fait de s'incliner devant Dieu représente l'expression d'un désir de le servir. Lorsque je viens adorer Dieu dans une conception moderne de l'adoration, même dans le milieu évangélique, lorsque je viens l'adorer, est-ce que je suis en train de dire à Dieu, « Dieu, je veux te servir » ou si je viens dire à Dieu, « Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Puis le deuxième n'est pas faux, là, d'accord? Merci pour la croix. Gloire à Dieu, il faut le dire, il faut le répéter sans cesse, constamment. Mais est-ce que je viens dire à Dieu, « Dieu, ma vie est à toi, Christ, tu m'as racheté par ton sang. Prends ma vie cette semaine, Seigneur, à fond la caisse pour toi. Je suis ton serviteur parce que tu m'as racheté au prix de ton sang. » Israël a été racheté au prix de quoi? De miracles fantastiques, mais du sacrifice du Fils de Dieu? Jamais. Oh, de miracles fantastiques. Attends un peu, on va aller dans le Nouveau Testament. Son sang. Son sang. Verset. D'accord? Par conséquent, il faut reconnaître que l'adoration biblique implique à la fois des actes précis de culte et de soumission et l'adoption d'un mode de vie caractérisé par le service et l'obéissance. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle d'adoration, On parle de se prosterner, on l'a vu tout à l'heure, une attitude. On parle de service, de servir Dieu. Par conséquent, un croyant, un chrétien qui veut suivre Jésus-Christ doit voir dans sa vie comment Dieu l'appelle à le servir. Oui, Linda. Oui. Alors, Linda fait juste rappeler le fait que toute la notion de sacrifice, d'être pardonné, d'être justifié, d'être rendu apte à s'approcher devant Dieu est important dans l'adoration. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu beaucoup dans la première partie, l'autre leçon avant, où on a vu comment s'approcher de Dieu. Ça fait partie de l'adoration, de m'approcher de Dieu comme il le veut. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, je suis un être pécheur. Comment est-ce que je vais m'approcher de ce Dieu-là? D'accord? Le sens de ça ne se résume pas à offrir le sacrifice pour avoir le droit d'entrer dans sa présence. Là, on est en train de parler du sens de l'adoration. Quand je veux entrer dans sa présence en offrant un sacrifice, c'est que je m'en viens honorer, me soumettre, rendre gloire, être reconnaissant envers Dieu. Et donc, lorsque les prophètes vont attaquer ça, quand Israël offre des sacrifices mais a perdu le sens de ce qu'ils font, les prophètes condamnent ça. Ils disent « Vos sacrifices sont abominables. C'est un mauvais parfum parce que vous le faites pour la forme, point. Vous avez perdu le sens de ce que vous êtes en train de faire. » D'accord? Alors oui, c'est vrai, c'est beaucoup dans le comment on va s'approcher de Dieu. Puis ça, ça porte un sens aussi. C'est vrai, ça nous parle de la sainteté de Dieu. Troisième groupe de mots qui exprime une nouvelle idée. On a parlé de se prosterner, qui est une expression de soumission, de respect. Là, on a parlé ensuite de ça, de l'idée du service qui est associé avec l'adoration. On devient des serviteurs de Dieu. Et donc, être un adorateur, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Troisième groupe de mots, cette idée de révérence ou de respect. Puis encore une fois, il fait une comparaison. L'auteur fait une comparaison avec ce qui était utilisé dans les cultures environnantes. D'accord? Et il y a un groupe de mots qui parlent d'une peur de Dieu. Littéralement, d'une terreur. Le groupe de mots en grec, tout autour de Seb, Sebomai, parle d'une terreur devant Dieu. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ce que l'auteur fait ressortir, c'est que c'est très peu présent dans l'Ancien Testament, cette idée d'être terrifié devant Dieu. Alors que dans la littérature de la même époque, chez les autres cultures qui adoraient d'autres dieux, c'était très, très, très présent. D'accord? Alors, c'est quelque chose qui est moins présent. Et donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble pendant quelques instants, c'est si on n'est pas censé être terrifié devant Dieu, quels sont les justes sentiments? Comment est-ce qu'on doit approcher Dieu si on parle d'hommage et de révérence? Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il parle de craindre Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que je tremble dans mon cœur devant Dieu? J'ai peur de ce Dieu qui pourrait, dans son courroux, à tout moment, s'emporter contre moi? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Pas dans l'Ancien Testament. Nous, on regarde l'Ancien Testament et on dit, « Oh boy, c'était mieux de marcher droit. » C'est Uza. Touche à l'arche, Isaac est là. Alors nous, on regarde ça, mais comparativement aux cultures autour, cette idée d'une terreur devant Dieu est très peu présente. Il y a l'idée de crainte qui exprime autre chose que ça, c'est différent. La crainte est toujours là. Avec Ananias et Saphira, oui. C'est-à-dire cette idée qu'il va y avoir des jugements de Dieu, on le trouve aussi dans le... C'est ça, on va le regarder ensemble. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans l'Ancien Testament. Deuxième paragraphe. En effet, les mots tels que Sebomai, qui au sens propre exprime terreur ou un grand respect, exprimaient dans les religions environnantes une crainte et un respect pour les divinités lors du culte et des célébrations, mais ils ne comportaient pas de notion de soumission inconditionnelle. Dans les cultures environnantes, on utilisait ce terme-là pour le moment où tu t'approches devant ton Dieu et tu t'en viens l'adorer. Tu devrais trembler devant lui. Mais ça s'arrêtait à ça. ce n'était pas associé avec un changement de comportement, un changement de vie. Il n'y avait pas de soumission inconditionnelle qui était associée à ça. Et dans le fond, ce que l'auteur va faire ressortir ici, c'est que lorsqu'on parle de craindre Dieu, Dieu s'attend à ce que ça se traduise en action. Et l'accent est beaucoup plus sur ça. Craindre Dieu, c'est obéir à Dieu. On va lire des exemples ensemble. Plutôt que être devant ce Dieu-là et trembler devant lui. Oui. Alors, Suzy souligne le fait qu'à plusieurs reprises, lorsque Dieu parle dans l'Ancien Testament, il va se présenter lui-même comme le Dieu miséricordieux, gracieux, qui est compatissant, qui est lent à la colère. Et donc, dans la révélation même de Dieu, bien, il nous fait connaître un Dieu devant qui on ne doit pas que trembler, mais en qui on devrait avoir confiance puis se sentir accueilli parce qu'il est miséricordieux. C'est vrai. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça qu'on voyait la semaine dernière puis la semaine d'avant qu'on adore un Dieu qui se révèle. On veut connaître le Dieu qui se dévoile en nous dans sa parole, dans tout ce qu'il est. Et ce n'est pas un Dieu avec un courroux incroyable. J'avais une belle discussion hier avec Bruno Piani, puis on parlait de cette grâce lorsque, à un certain moment donné, tu dis au Seigneur, « Seigneur, mes enfants sont à toi. Tu peux venir les chercher quand tu veux, ils sont à toi. » Puis Jésus nous demande clairement de l'aimer plus que notre épouse, nos enfants, nos parents, tout le monde. Mais moi, pendant plusieurs années, je savais dans mon cœur que Dieu, je lui avais accordé le droit de prendre n'importe quoi, mais pas mes enfants. Et j'avais, pour être franc, cette espèce de crainte dans mon cœur que le jour où je dirais ça, il se passerait quelque chose. C'est comme si j'avais peur de dire, c'est comme s'il y avait besoin de mon autorisation pour faire quelque chose. Mais je ne voulais pas les laisser aller. Puis c'est comme si j'essayais de garder une certaine emprise sur Dieu en disant, vous comprenez que ce n'était pas bien là, je suis en train de vous donner un exemple, je suis en train de vous parler comment est-ce qu'on grandit dans notre foi. Mais c'est comme si je gardais une certaine emprise puis disais, Seigneur, si tu fais ça, je ne sais pas si je vais encore être capable de t'adorer puis de te louer. D'accord? C'est ma conception de Dieu. Ça va chercher à ma compréhension de ce Dieu qui est un Dieu. Est-ce que je ne doutais pas de ce Dieu bon, qui ne fait pas suivre les épreuves d'autres épreuves. Voyez-vous, c'était ma vision de Dieu qui avait besoin de grandir pour dire, « Père, je te fais confiance, tu es un bon père. Ce n'est pas parce que je m'abandonne en tes mains que tu vas en profiter pour abuser de moi et me faire du mal. » J'avais besoin de découvrir et de m'abandonner à ce Dieu-là. Puis quand Dieu t'accorde cette grâce-là, c'est extraordinaire ce que ça fait dans ton cœur. Mais c'était ma conception d'un Dieu qui est un peu machiavélique, puis qui attend juste que tu cèdes pour que, bang, là, m'a te cassé. Comprenez? Puis on le sait qu'il nous casse pour nous faire grandir. Fait que, Seigneur, n'importe quoi, tu peux me casser n'importe comment, mais pas en touchant mes enfants. Ça, tu touches pas à ça, c'est à moi, ça. D'accord? C'est ma conception de Dieu qui devait grandir, ma compréhension de ce qu'il est. Le dernier paragraphe de la page 7. En fait, il faut que je revienne juste un petit peu avant. Non, c'est ça, le dernier paragraphe. Par opposition, dans l'Ancien Testament, il arrive que l'effroi, le tremblement ou la terreur soient considérés comme des réactions appropriées à la révélation divine. Donc, on ne dit pas que ce n'est pas là, d'accord? Il y a des manifestations dans l'Ancien Testament. Littéralement, tu tombes par terre terrorisé devant Dieu parce que tu es dans la présence de Dieu, c'est vrai. Néanmoins, le plus souvent, la crainte de Dieu au sens... Le plus souvent, ce qu'on trouve, c'est la crainte de Dieu au sens positif de révérence ou de respect dont il est question. Craindre Dieu signifie observer ses commandements, obéir à sa voix, marcher dans ses voies, renoncer au mal, le servir. L'obéissance dans le culte fait partie de ce service, mais elle n'est normalement pas en cause lorsque ce verbe-là, « craindre » est là, c'est plutôt un service au quotidien. Alors, la dernière phrase, « contrairement à la notion grecque de piété, la révérence ou la crainte dans l'Ancien Testament du Seigneur, qui est la vraie religion, désigne spécifiquement la fidélité et l'obéissance aux exigences de l'Alliance de Dieu. Si vous voulez mieux le comprendre, prenez le temps d'aller lire les références qui sont en bas. Je vous en donne juste une à la prochaine page. Là, on va juste en regarder une. Mais prenez le temps d'aller les lire et les relire pour que cette idée de la crainte de Dieu associée avec le service. Craindre Dieu, c'est agir conséquemment avec ce qu'on dit. Dieu est grand, Dieu est saint. Donc, que ça change, je veux le voir dans ta vie. C'est ça le sens de la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu est grand, il est merveilleux, je viens chanter ça le dimanche matin. Donc, je veux le voir dans ta vie. S'il est grand, il est saint, il est majestueux, il est merveilleux. D'accord? Et c'est dans ce sens-là que ça va dans l'Ancien Testament. Un exemple avec Deutéronome 5, 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Ça va un petit peu dans le sens de ce que Suzy soulignait tantôt. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on le craigne? Parce qu'il veut notre bonheur. Oh, ça, c'est différent du Dieu terrifiant que chaque fois qu'on s'approche de lui, on tombe par terre parce que c'est un Dieu courroucé qui t'as peur de lui, il est dur. Pas comme ça qu'il se révèle dans l'Ancien Testament. Il est grand, majestueux, infini, infiniment bon. Il veut notre bonheur. Et donc, ce qu'on voit ici, cette idée que la crainte est associée avec observer ses commandements. Craindre Dieu, c'est marcher dans ses voies pour notre bonheur. D'accord? Résumer l'adoration comme révérence ou respect. Le concept biblique de crainte de l'Éternel diffère considérablement des notions de piété courantes dans la civilisation gréco-romaine. Dans l'Ancien Testament, la révérence ou le respect de Dieu consiste essentiellement à marcher dans ses voies et à garder ses commandements. Alors, quand vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu, ça veut dire le prendre au sérieux. On pourrait le résumer comme ça. Ça veut dire prendre l'alliance au sérieux. C'est ça que ça veut dire craindre Dieu. On le fait parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Dieu qui a fait mourir Uzza lorsqu'il n'a pas honoré les termes de l'Alliance. C'est le Dieu qui a fait mourir Ananias et Saphira lorsqu'ils ont voulu se moquer de l'Esprit de Dieu. Pardon? Les deux fils d'Aaron, fils d'Élie. D'accord? On le craint, oui, parce que son courroux est terrible. Mais le craindre, c'est pas craindre un Dieu dont le courroux est terrible. C'est respecter, honorer un Dieu qui est à la fois puissant et majestueux, donc je devrais avoir peur de lui, mais bon et généreux et plein d'amour, donc je peux avoir confiance en lui. Et c'est pour ça qu'on fait souvent l'association avec craindre un bon père. C'est pas tout le monde qui a eu une bonne figure paternelle, mais imaginez un bon père, et un bon père, c'est pas juste quelqu'un qui donne de la crème glacée ou des nananes à ses enfants. D'accord? C'est quelqu'un qui, lorsqu'il dit, il dit à ses enfants, « Touche pas à ça », il touche pas à ça. Oui? Oui. La question... Là, j'essaie juste de trouver des références qui iraient dans ce sens-là. Madame pose la question, elle dit, est-ce qu'on ne pourrait pas associer l'idée associer la révérence à l'idée de ne pas vouloir attrister ce Dieu que nous aimons par nos vies? On le voit dans les psaumes, en tout cas. On voit Dieu qui voudrait trouver joie dans son peuple, dans un peuple qui obéit puis qui honore. En fait, un exemple qui va dans le sens que vous dites, là, si vous regardez au bas de la page 8, je vais vous lire une citation qui est un peu longue, mais j'ai voulu montrer comment le mot « amour » parce que dans notre conception de l'adoration aujourd'hui, l'adoration, c'est beaucoup, beaucoup des émotions. D'accord? J'ai voulu montrer la relation qu'il y a entre le terme « aimer » et l'obéissance. D'accord? Alors, la citation qui est au bas de la page 8, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. » Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrits dans le livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors, il y a vraiment cette idée que aimer Dieu de tout mon cœur, c'est quitter le péché, c'est marcher dans la vérité, c'est honorer Dieu. Je ne peux pas dissocier les deux. Les deux sont intimement liés. Et je vais vous laisser le soin de lire la conclusion qui est écrite ici, parce que je dois retirer, on doit arrêter le cours. Prenez le temps de le lire, on essaie de résumer la compréhension dans l'Ancien Testament de l'adoration. D'accord? Vous avez ça dans les... Juste lire la page 8 et puis la page 9, et vous avez un résumé. Mais si on pouvait résumer l'adoration en une phrase, c'est adorer le Dieu qui nous a rachetés par une vie transformée. Une vie qui lui est consacrée. C'est beaucoup ça, être un adorateur dans l'Ancien Testament. L'accent n'est pas mis sur les émotions que je vis dans la présence de Dieu. L'accent n'est pas mis là-dessus dans l'Ancien Testament. L'accent est mis sur l'amour que j'ai pour Dieu, comme disait Madame, va se traduire en action dans ma vie de tous les jours, dans une vie consacrée. Et ça, c'est le culte. Alors, ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est est-ce que ça devrait être comme ça aujourd'hui encore? Est-ce que c'est ça que Christ attend de nous? Alors, quels sont les éléments qui se continuent dans le Nouveau Testament, puis quels sont les éléments qui se transforment lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament? Les notes sont sur les chaises, pour ceux qui seraient arrivés un peu plus tard. Si jamais il en manque, peut-être vous pouvez... Non, il y en a, d'accord. Je vous demande encore une fois de mettre votre nom sur la feuille de présence. Si vous vous êtes ajouté au cours cette semaine, que vous désirez recevoir les notes par courriel, vous mettez votre courriel à côté de votre nom sur la feuille.